Bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez à mon espace d'expression recto verso. Malheureusement, je ne saurais me définir. Mon intention n'est point de susciter l'intérêt sur l'individu, mais de partager le quotidien d'une femme noire, africaine et homosexuelle dans l'optique de faire avancer les débats. Dans le respect et l'écoute de l'autre, permettez-moi donc de garder mon anonymat. C'est ainsi que se présente l'auteur du blog Recto Verso sur Mondoblog. Elle est noire, africaine et homosexuelle. Depuis plus d'un an, elle ouvre le débat, explique ses points de vue, lève les malentendus. Recto Verso a reçu il y a quelques jours le prix du meilleur blog francophone au Best of Blogs de la Deutsche Welle. Bravo à la personne qui l'a lancé et le tient contre vents et marées. Puribond, pudique, hypocrite, passionné sans base, cet espace n'est clairement pas pour vous, du moins tant que je serai propriétaire et que vos idées seront publiquement, rarement en privé, figées. D'ici là, je vous souhaite un excellent voyage dans mon univers. Merci Recto Verso, continue ton voyage, toi aussi, nous sommes à tes côtés.
Tu vois, je te l'avais dit.
Qu'attendez-vous de nous?
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous,
regarde ce qu'on peut faire.
Dans quelques mois, Paris deviendra la capitale mondiale de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sera cet automne à l'occasion de la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous prenons un peu d'avance dans l'atelier pour parler de la manière dont les médias et les geeks s'emparent de cet événement pour sensibiliser le monde aux enjeux du climat et du développement durable. D'ici une heure, Francis Pisani nous parle d'économie, d'énergie ou comment les nouvelles technologies et la ville dite intelligente peuvent réduire notre consommation. On retrouve tout de suite Marie-Catherine Beuth pour sa chronique Étreinte Digitale.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Marie-Catherine Beuth.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu veux aujourd'hui nous parler d'innovation dans les médias comparée à l'innovation dans l'univers des technologies et tu te fondes sur une étude.
C'est en effet une étude qui m'a interpellée cette semaine, étude qui a été produite par Amy Webb, qui est une analyste futuriste assez suivie dans le domaine des médias et des technologies. Et elle a dressé un rapport qui compare le rythme de l'innovation dans les technologies à celui dans les médias. On relève ainsi à travers cette étude que dans les années 80, il se passait beaucoup de choses dans les technologies avec l'arrivée de la télévision couleur dans les foyers américains, le développement du Walkman, les premiers ordinateurs Apple, tandis que dans les médias, c'était l'arrivée de la chaîne d'information continue CNN, quelques années plus tard de la chaîne de vidéo musicale MTV, le lancement de USA Today. De même, dans les années 90, on a vu plein de nouvelles technologies arriver, plutôt tournées vers le web, des logiciels comme Photoshop arriver, des systèmes d'exploitation comme Linux, et il y avait une effervescence assez similaire dans le monde des médias, où tout le monde était en train de basculer vers une production de contenu de plus en plus numérique, et finalement une certaine effervescence qui avait l'air d'être partagée entre le monde des technologies, où on voyait émerger des acteurs comme Amazon, eBay, et le monde plus classique des médias.
Et selon l'étude, donc, l'innovation dans les médias s'est ralentie par la suite, c'est ça?
Oui, on voit quand on compare ces différents tableaux de l'étude que dans les années 2000, il y a d'une part un certain ralentissement dans le volume d'innovation qui viennent du monde des médias comparé à celui des technologies. Les années 2000, c'est quand même beaucoup d'innovation dans le web. Et en parallèle aussi un certain écart entre les innovations créées. Une année, par exemple, qui m'a marquée, c'est l'année 2004, où se lance le réseau Facebook sur le campus de l'université à Harvard, aux États-Unis. Et en 2004, eh ben, que se passait-il au New York Times? On commence à adopter les flux RSS. Autrement dit, quand vous regardez ces deux tableaux côte à côte, il y a quelqu'un, Facebook, qui est en train d'imaginer des nouveaux moyens de communication qui, 10 ans plus tard, sont encore très utiles. Et à côté de ça, des technologies que l'on utilise et qui ont du mal à continuer à progresser.
Est-ce que cette étude propose une analyse de ces différences d'évolution ou elle constate simplement ?
C'est surtout un constat et moi il y a une petite critique ou une petite remarque que j'aurais à faire sur cette étude, mais c'est aussi pour cela qu'elle m'a interpellée, c'est que quelque part ce constat d'un gap entre l'innovation très productive et très riche dans le monde des technologies et qui se ralentit ou qui n'est pas assez varié dans le monde des médias est peut-être un petit peu trop tourné vers une observation du seul marché américain. Il y a énormément de choses innovantes qui viennent du marché asiatique. On ne connaît pas forcément tout de toutes ces pratiques dans le monde des médias. Et je pense qu'il y a donc encore plein de poches d'innovation dans les médias qui ne sont pas recensées dans cette étude-là et qu'il conviendrait de surveiller et de partager davantage.
Pour conclure, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant, toi, dans cette étude ?
Je trouve très intéressant de comparer des cycles d'innovation dans deux industries qui sont différentes et en même temps très très proches parce que l'un se nourrit énormément de l'autre. C'est aussi une façon d'observer, en prenant beaucoup de recul, comment les innovations que l'on prend aujourd'hui comme argent comptant dans les technologies ou dans les médias ont réussi à tenir dans la durée. Il y a un certain nombre de choses qui continuent à fonctionner dans les médias qu'on a fait il y a une trentaine d'années, d'autres qu'on a laissé tomber. C'est à garder en tête quand on se pose des questions sur les choix technologiques qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a des choses qu'on gardera, d'autres pas, mais ce n'est pas forcément très grave.
Merci Marie-Catherine Beut. On peut retrouver tous tes écrits sur ton blog Étreinte Digitale hébergé par Le Figaro. On peut aussi réécouter toutes tes chroniques et les relire sur ton blog de l'Atelier des médias. À bientôt.
À bientôt.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Au niveau de notre pollution, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la télévision, c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Ce vendredi, c'était la journée mondiale de l'environnement, un excellent prétexte pour inviter dans l'atelier plusieurs médias et initiatives liées aux questions d'écologie et plus particulièrement à ce qui sera le grand rendez-vous de l'année 2015 dans ce domaine, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques organisée à Paris à l'automne prochain du 30 novembre au 11 décembre. Le nom de code de cet événement est COP21, vous l'avez probablement déjà entendu et vous l'entendrez plus encore dans les semaines à venir. Objectif COP21, comment s'organisent les médias d'ici et d'ailleurs pour préparer, expliquer puis couvrir la COP21? Que prévoit la communauté des technophiles? Petit tour d'horizon aujourd'hui dans l'atelier. Bonjour Anne-Sophie Novel.
Bonjour Ziad.
Tu es docteur en économie, journaliste spécialisée en environnement et développement durable. Tu es aussi blogueuse, multi-blogueuse et tu portes le projet Place to Be à l'occasion de COP21. Tu vas nous en dire plus dans un instant sur Place to Be. Avant cela, peut-être que tu pourrais nous dire ce que représente cette conférence COP21, son importance et ses enjeux.
Donc c'est la conférence de l'ONU sur le climat qui a lieu donc depuis plus de 20 ans maintenant. Et l'enjeu est de trouver la suite du protocole de Kyoto. Donc c'est pas un mince enjeu. Et on se demande même si le processus même en tant que tel ne doit pas être revu. Et je pense qu'en France, le gouvernement est en train de réfléchir à une manière de trouver une suite qui soit peut-être un petit peu différente.
Le nom de code COP21, c'est Conférence des parties.
Conference of Parties.
C'est-à-dire
c'est l'ensemble des négociateurs de tous les pays, des 195 pays réunis dans le processus qui se retrouvent. Alors en plus, il y a des étapes. En ce moment, on va en avoir d'autres. Les pays doivent tous fournir leurs engagements pour le mois d'octobre et on aura déjà une feuille de route assez tracée lorsque la négociation va commencer en décembre.
Et cette conférence, comme d'ailleurs d'autres conférences avant, est présentée comme la conférence de la dernière chance pour trouver un accord global, c'est ça ?
Alors, la dernière qui a été présentée comme ça, c'était véritablement Copenhague. Donc en 2009, c'était la COP15. Lima, la COP20 a suivi son cours, mais c'était surtout pour préparer la COP21 de Paris. Et en tout cas dans la société civile, on évite de reproduire le phénomène Copenhague et de parler de sommet de la dernière chance. C'est vraiment une sémantique sur laquelle ils travaillent, ils ne veulent pas le présenter ainsi et ils regardent même déjà en 2016. Donc c'est important de ne pas la présenter comme ça, même si c'est tentant.
Pour faciliter, peut-être même améliorer, tu vas nous l'expliquer, la couverture médiatique de cet événement, tu as mis en place le projet Place to Be. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, Place to Be, c'est avec un grand B, sans E, ni devant, ni derrière.
Donc, Place, c'est un lieu en
anglais, hein, to be, c'est un jeu de mots, donc avec le lieu où il faut être, the place to be.
Et puis aussi la planète, si on veut tirer un petit peu l'image. Le B, c'est pour plusieurs choses. C'était pour blogueur, pour bottom-up, tout ce qui est logique de bas en haut. C'est aussi pour RERB et Bourget, parce que les négociations auront lieu là-bas. Et c'est
donc
aussi
le Bourget, c'est juste à côté de Paris, et le RERB, c'est donc un transport en commun qui permet de relier l'endroit où va être place to be, parce que place to be, c'est un lieu, et le Bourget.
Exactement. Et c'est aussi pour les pancartes que je voyais quand j'étais à Copenhague en 2009, où il y a marqué « There's no planet B », il faut parler de plan B, enfin voilà. Donc c'était plein de choses. Et puis en fait, le lieu, en effet, qu'on a trouvé, c'est une auberge associée à un bar qui s'appelle le Bellucci's. Et donc beaucoup de gens...
Une auberge de jeunesse même, on peut dire,
non ? On dit jeunesse, mais je veux pas garder le mot jeunesse, parce que les plus âgés ne veulent pas dire chez nous quand on dit trop jeunesse. Donc c'est en tout cas un établissement qui a moins de 2 ans, qui est très confortable, qui ressemble pas moi aux auberges de jeunesse que j'ai connues en Allemagne petite. Donc il y a un confort quand même assez réel. Et donc on va investir le lieu. Il y a 600 couchages à disposition pour accueillir des personnes du monde entier, avec un public qui pour nous va du journaliste, blogueur, photographe, à des publics un peu plus makers pour certains, ceux qui vont faire
donc
du
makers,
code informatique.
Makers, ce sont ceux qui bidouillent, hein,
qui bidouillent, qui font
des
du code,
objets,
qui vont faire des applis, qui vont, mais ça peut être des écrivains aussi, ça peut être des dessinateurs. En tout cas, on cherche des narrateurs du monde entier. On veut vraiment assurer la diversité de leur provenance, et on veut essayer avec eux de raconter les choses différemment. Je crois qu'aujourd'hui on a fait tous les constats en termes de l'état de marche du monde et de changement climatique. On a de nombreuses solutions à disposition, sauf que le sujet reste maltraité souvent dans les médias, et c'est une question
le sujet du dérèglement climatique,
oui, du dérèglement climatique, du climat, de l'environnement, et l'idée c'est d'essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Et de montrer qu'on peut changer notre imaginaire et notre culture autour de ces sujets.
Alors on va parler de l'éditorial, parce que c'est un projet éditorial. Avant cela, pourquoi avoir choisi de réunir donc près de 600 personnes dans un lieu, dans un espace, tu ne l'as pas dit, de coworking, donc de travail collaboratif, de travail en commun? Pourquoi avoir eu cette idée de mettre les gens ensemble? C'était quoi l'envie?
En fait, j'ai été blogueuse quand je suis allée à Copenhague en 2009 pour la COP15, et je me suis retrouvée via les réseaux tic-tic-tic-350.org, qui sont les ONG qui pousse beaucoup ces sujets, notamment sur les aspects numériques de la chose, dans un QG. C'était un café qu'ils avaient privatisé à l'époque pour justement accueillir, ils parlaient eux à l'époque d'activisme 2.0, et donc c'était un autre QG où on se retrouvait et où tous les soirs on avait des topos avec des personnalités allant de Naomi Klein au Yes Man, à Georges Monbiot du Guardian. Et donc l'idée de Place to Be s'inspire de ce vécu, mais avec l'envie de se dire, Paris ne sera pas Copenhague, et il est temps maintenant de faire bouger ses lignes. Et
au départ, que Copenhague est, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, est perçu comme un échec plutôt.
Comme un échec, une déception assez forte. Et
parce qu'on n'est pas parvenu à dépasser le protocole de Kyoto.
Et à trouver un accord qui soit suffisant pour rester dans la limite des 2 degrés.
Donc, aller au-delà de 2020.
Exactement. Donc du coup, c'était inspiré de cette idée. Au départ, on réfléchissait il y a plus d'un an à trouver un café qu'on allait privatiser, et on est tombé sur cet espace, le Bellucci's, qui en fait est un bar associé à une auberge de jeunesse, et ils ont tout de suite adoré le projet. Ils ont dit, nous, on ne fait aucune réservation, vous faites venir le public que vous voulez, et après, du coup, vous bénéficierez de tout l'espace pour en effet monter cet espace de coworking avec toutes les facilités d'accès à Internet, avec un plateau télé, un plateau radio, avec justement des points d'étape et des topos le matin et le soir qu'on va organiser, des émissions qui seront tournées en direct, et on bénéficie d'un espace pour faire des projections de films, pour faire des concerts,
des rencontres.
Des rencontres, bien sûr, et on aura aussi un espace qu'on a appelé la fabrique d'un récit différent, pour justement faire se rencontrer des compétences différentes et remplir des challenges.
Comment se fait-il, je vous cite, alors je ne sais pas si c'est toi qui as écrit ce texte, comment se fait-il que la pire des catastrophes annoncées ne mobilise pas les foules? Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes manifestations dans le monde pour protéger ce que nous avons de plus précieux, notre planète, en nous engageant dans une vraie transition écologique? Parce que le climat est un sujet anxiogène, souvent difficile à traiter dans les médias, parce qu'il donne un sentiment d'impuissance, alors que les solutions existent. Nous avons décidé de créer Place to Be. Fabriquer un récit différent implique de bousculer les codes de production, de modifier les modes de réflexion habituels et de s'interroger sur nos pratiques pour aboutir à une nouvelle forme d'organisation. C'est extrêmement ambitieux, et c'est ambitieux d'un point de vue éditorial, c'est-à-dire que tu as envie de bousculer les codes, changer la manière de fabriquer. Qu'est-ce que tu imagines? Parce que j'imagine que c'est encore à l'état de projet, d'imagination, d'envie.
C'est en effet assez ambitieux. En fait, je me disais que pour l'occasion, on n'avait pas les moyens de voir petit. Donc, on pose cette ambition et on va tout faire pour y arriver. J'espère qu'on ne sera pas déceptif, bien entendu. L'idée, c'est de aussi se faire rencontrer des personnes de la société civile, des narrateurs du monde entier qui ont envie de porter ces sujets avec justement une presse plus traditionnelle. Et d'organiser ces moments de rencontre permettra peut-être de faire passer le message différemment, de leur fournir un contenu différent. Et dans la fabrique d'un récit différent, on va aussi travailler des nouveaux formats, de nouveaux modes d'expression.
Et l'idée, c'est de peser aussi sur ce qui va se passer parallèlement au Bourget, sur les négociations.
Ben, on peut peser, oui, parce que si on fait venir, comme on le souhaite, des blogueurs de Chine, d'Inde, d'Afrique, d'Amérique latine, enfin du monde entier, et qu'ils viennent raconter leur vécu du changement climatique, qu'ils viennent réciter et qu'ils auront sûrement un discours très différent des négociateurs ou des représentants de leur pays au Bourget, ça sera une façon de peser aussi, de dire mais regardez cette réalité, regardez notre vécu, et c'est ça qui est important pour nous, c'est qu'on puisse les aider. En anglais on dirait giving voice to the voiceless, donc c'est vraiment avoir un effet en fait de mégaphone par rapport à ce qu'ils vivent.
Place to be, c'est un projet collectif, tu es venu en force. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Tu travailles avec Anne-Sophie, on te connaît, tu es déjà venue dans l'atelier des médias, notamment pour nous parler des hackers, ces personnes qui bidouillent, etc. Tu es venue avec Anne-Sophie, tu travailles avec elle sur le projet Place to Be, et plus spécifiquement sur ce que vous appelez la fabrique, c'est ça ?
Tout à fait. Donc il s'agit en fait de réunir des profils très différents, des blogueurs, mais aussi des comédiens, des dessinateurs.
Des humoristes, j'ai lu aussi.
Des humoristes, des gens en fait de la société civile pour raconter un récit différent. Voilà, on aura plein d'outils à disposition, un studio radio, un studio télé, pour pouvoir rendre compte de ce qui se passe dans la fabrique. Donc on va lancer le 14 juin, donc c'est un dimanche, pendant la COP of Tea, à laquelle vous êtes tous conviés, un crowdsourcing des défis.
Donc un crowdsourcing, c'est-à-dire vous demandez aux gens, à la foule, de donner des idées, de partager
exactement,
des idées.
Exactement, de proposer des défis sur justement les sujets environnementaux et les sujets climat sur lesquels les gens ont envie de travailler. Par exemple, voilà, je voudrais faire du compost dans mon quartier. Qu'est-ce que je peux faire avec ce compost ? Est-ce que je le fournis au service de la ville ? Comment je m'organise ? Ou alors peut-être au jardin partagé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ? Qu'est-ce que je peux déjà raconter sur le sujet ? La deuxième partie, donc ça va être à partir de la rentrée, ça va être de faire là aussi encore un appel à la foule, donc un crowdsourcing sur les formats. D'avoir à la fois un challenge, mais aussi de le raconter d'une autre manière. Donc ça, c'est ouvert à discussion. Et peut-être de travailler avec des médias pour pouvoir continuer aussi à diffuser voilà toute cette production qui, il faut le préciser, est open source, copyleft.
Donc open source, ça veut dire que c'est ouvert.
Voilà,
ce sont
des formats
ouverts. Ça veut dire
ouvert.
Que chacun peut l'exploiter en respectant un certain nombre de règles qui est
exactement.
De citer en général les auteurs, de ne pas l'utiliser dans un cadre commercial, ça se définit, etc.
Exactement, ça peut être reproduit, augmenté, largement diffusé pour le bénéfice de tous.
Anne-Sophie, avant de passer, de rencontrer nos autres invités, ça vient d'une envie éditoriale, ce projet, et ça se transforme en un mélange, en une forme de journalisme hybride. C'est comme ça, toi, que tu vois le journalisme aujourd'hui, c'est-à-dire il faut faire, engager, mêler des projets, susciter des projets, susciter de nouvelles idées, etc.
Moi, je pense qu'on vit une crise dans les médias. On n'est pas, je suis pas la seule à le dire, je pense que c'est un constat, et qu'il y a une posture, en fait, dans la période que l'on est en train de vivre. On est dans une transition et je pense que les médias pourraient porter ces sujets différemment. C'est-à-dire, on sait qu'un média se fait le miroir de la société qu'il narre, mais je pense qu'à un moment, on peut aussi éclairer cette société. Et je crois que c'est une question de responsabilité aujourd'hui. Les médias sont toujours à même de cibler la responsabilité des autres, mais il y a un moment, peut-être, une posture. J'observe beaucoup ce que fait le Guardian en ce moment avec Alan Bruce Bridger, qui a lancé toute cette campagne.
Qui vient de partir.
Ah bon ?
Oui.
Dommage. Mais voilà, et je pense que c'est important. Alors certes, il y a des médias responsables, engagés qui le font, mais sur ces médias traditionnels, je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit se passer. Donc on a des initiatives de plus en plus nombreuses qui vont en ce sens. Donc je ne les accuse pas, je pense que c'est difficile aujourd'hui de faire changer les choses. Mais en effet, créer des événements, être à la confluence de cette société civile et de ces gens qui font, permet aussi de raconter les choses autrement.
On marque une courte pause dans l'atelier. On se retrouve dans un instant, toujours pour parler de la COP 21, tout de suite. Vous écoutez l'atelier des médias Objectif COP21 cette semaine avec nos invités. La COP21, c'est la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette conférence se tient à Paris à l'automne prochain. Comment s'organisent les médias et la communauté de l'innovation pour préparer et couvrir cette rencontre? Nous en parlons avec nos invités.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous, vous
verrez sur toi des arbres s'allonger dans la buée blanche, des formes arrosées, des nuages d'avalanche, faire du petit bois, coupons leurs branches et réveillons-les.
Bonjour David Solon.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et directeur de la rédaction du magazine Terra Eco et du quotidien électronique terraeco.net. Vous vous présentez comme le bimédia francophone du développement durable. J'imagine que vous avez déjà des choses à dire sur ce que vous avez entendu et que vous vous êtes peut-être reconnu dans les approches évoquées.
Dans les critiques ou dans les ou dans les idées? Non, j'ai bien aimé ce qu'a dit Anne-Sophie et Ophélia. J'aime bien cette idée de bulle d'oxygène au milieu d'un secteur qui est quand même en crise, disait Anne-Sophie, je dirais sinistré. C'est vrai que depuis 6 ans, on a peu avancé. Hein, depuis Copenhague, il s'est pas passé grand-chose dans cette prise de conscience. Il y avait un sondage il y a quelques jours, là, le 1er juin, sur Le Monde, qui disait que une majorité des Français se désintéressait de l'écologie et de l'état de la planète. C'est terrible. Les médias cherchent la façon de mieux s'exprimer, de mieux raconter, de mieux suivre. Et il se trouve que ces conférences et parties sont quasi incompréhensibles, sont très arides pour le grand public. Alors on cherche les moyens de faire que le grand public s'approprie ces grands enjeux. Et ça, c'est pas facile. C'est un enjeu très important.
Votre projet média, Terra Eco, je l'ai dit, c'est un, vous l'appelez bimédia francophone du développement durable. Vous pouvez expliciter ce slogan?
Ouais, alors, l'identité de Terra Eco, c'est 3 verbes. C'est résister, partager et inventer. Résister parce que justement il y a de l'indifférence sur l'état de la planète, il y a de la xénophobie, il y a un problème dans la démocratie, il faut résister à tout ça et il faut essayer d'avoir une vision plus optimiste, plus proactive. Partager, c'est parce que l'information elle n'est pas faite par les journalistes pour les journalistes. En ça je rejoins Anne-Sophie, il faut essayer de ne plus aller du haut vers le bas et essayer d'horizontaliser l'information, mais partager, c'est aussi partager les ressources, partager les idées. Et puis inventer, c'est inventer sans doute de nouveaux systèmes, un nouveau système économique, celui dans lequel on vit, j'espère en tout cas, vit ces dernières années, ces dernières décennies peut-être. Il faut essayer d'aller vers de nouveaux systèmes. C'est ça Terra Eco. Et on parle de climat et on peut rassembler ça sous le vocable développement durable, mais on parle d'environnement, on parle de climat, on parle d'économie, de social depuis 10 ans à Terra Eco. Terra Eco est né en 2004. Voilà, avec cette conscience qu'il faut aller au-delà de l'explication, au-delà de la vulgarisation et sans doute davantage vers l'engagement. Ça fait pas de nous des politiques, hein, ça fait pas de nous des militants, mais quand même en quelque sorte des militants de la planète et en tout cas d'une nouvelle vision du monde dans lequel on vit et qu'on essaie de partager.
L'engagement et la spécialisation, parce que vous considériez, ça c'est le constat qui était expliqué donc toujours sur votre site, que les médias traditionnels traitent plutôt mal des enjeux de développement durable, d'écologie,
ouais,
etc.
Je pense pas qu'on soit un média spécialisé. Si parler de l'état de la planète, parler de notre système économique, parler surtout et d'abord des générations futures, si ça c'est se spécialiser, alors non, on n'est pas spécialisé, au contraire. Mais quand on dit que nos confrères, c'est pas une critique en fait, c'est plus pour remplir une place qu'on sentait vide, en tout cas essayer de le faire, ce qu'on essaie de dire c'est que les pages environnement sont pas perdus au milieu d'un chemin de fer, entre un début et une fin, entre une lettrine et un point final. C'est pas ça pour nous l'environnement, c'est pas ça pour nous non plus l'invention d'un nouveau système économique. C'est diffus, c'est-à-dire qu'on peut très bien parler d'environnement quand on parle de santé, et on le fait de plus en plus, on peut très bien parler d'environnement quand on parle d'alimentation, d'agriculture. Vous voyez, ça c'est pas se spécialiser, au contraire, plus on élargit, plus on horizontalise ce prisme, et plus ça marche. Donc je pense qu'on est d'abord un média généraliste.
Et pour revenir sur la COP 21, qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Je sais que vous diffusez chaque semaine la chronique faite par Anne-Cécile Bras avec Pierre Radan, donc qui explique et qui prépare un petit peu la COP 21. En dehors de ça, en plus de ça, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous comptez faire?
Alors, ce qui se passe, c'est que Terraeco parle tous les jours depuis du climat et depuis 10 ans. C'est-à-dire que on va pas se mettre à faire, parce que j'entends aussi pas mal de gens s'intéresser au climat parce qu'il y a un événement mondial à Paris dans 3 mois. On essaie de le faire au quotidien et ça c'est notre engagement de journaliste. Qu'est-ce qui va se passer pour nous à Terraeco? C'est évidemment au moment de la COP, donc fin novembre, début décembre, une mobilisation de la rédaction. On est 7 journalistes plus notre réseau de correspondants. Mais ça c'est, j'ai envie de dire, le traitement live, la couverture live des négociations. Vous savez, les négociations, c'est pas très sexy à raconter. On préfère aller chercher, un peu comme le disait Anne-Sophie, je suis d'accord avec ça, la vision depuis le Bangladesh, la vision depuis l'Afrique, la vision depuis l'agriculture dans le sud de la France qui remonte parce que les températures augmentent. Vous voyez, je suis plus dans une perspective, bien sûr, de couverture live de l'événement, mais parallèlement, et peut-être même d'abord, une mise en perspective de ce que ça veut dire pour les générations qui viennent, mais même pour nous, le changement climatique, les dérèglements climatiques.
Bonjour Benjamin Tinck.
Bonjour.
Tu es cofondateur de WeShare, c'est une communauté dédiée à l'émergence d'une société collaborative. Tu es également porteur du projet POC21, c'est un projet issu de la culture numérique, open source, de l'économie du partage. C'est un dispositif assez complexe avec plusieurs étapes que je te propose de nous expliquer dans le détail. Avant ça, peut-être de nous rappeler ce qu'est WeShare.
Oui, merci Ziad. Donc effectivement, WeShare, c'est un collectif international dédié à l'économie collaborative, comme tu viens de le rappeler. Donc tous ces modèles basés sur le partage, la collaboration, les échanges entre particuliers, que ce soit pour consommer, produire ou financer des projets différemment, par exemple.
Et WeShare, ça s'écrit, pour ceux qui ne le voient pas, c'est O-U-I, share comme partager en anglais. Oui, comme oui.
Exactement, oui en comme français. En français, share comme partager en anglais. Donc on assume notre côté français, le fait que le projet est né à Paris au départ. Et donc, qu'est-ce qu'on fait autour de ces sujets? Nous, on organise des événements, on produit du contenu, on relie les acteurs, les penseurs, les entreprises, les collectivités qui s'intéressent à ces thématiques en France, en Europe, en Amérique du Sud, un petit peu partout dans le monde. Et un de nos principaux projets s'appelle WeShare Fest, c'est une conférence qui avait lieu
Fest.
Il y a deux semaines. Voilà, ouais. Comme festival, qui reliait 1500 acteurs pendant 3 jours au Cabaret Sauvage dans le parc de la Villette, au nord-est de Paris. Et donc tu parlais du projet POC 21.
Ouais.
Donc effectivement, il y a la COP 21, la Conference of Parties. Nous, on fait le POC 21, qui est le Proof of Concept, donc en français le démonstrateur, la preuve de concept. L'idée, enfin le projet au départ part vraiment d'un constat. On parlait un petit peu de maker tout à l'heure avec Anne-Sophie Ophelia, donc ces gens qui bidouillent, qui inventent, qui créent, qui réutilisent souvent,
et qui partagent en général, ouais.
Et qui partagent souvent leurs créations en open source, sous licence libre, donc sans propriété intellectuelle, et qui peuvent inventer tout un tas de solutions dans des fab labs, les maker space, donc tous ces lieux de fabrication dans lesquels on va trouver des outils partagés, des imprimantes 3D, des découpes laser, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il existe dans cet écosystème beaucoup de créativité, de solutions, de projets qui sont développés par ces inventeurs. Ça peut être des startups, ça peut être des associations, ça peut être des indépendants, que ce soit des dispositifs dans l'éolien, dans le solaire, dans l'efficacité énergétique, dans la mobilité électrique, dans l'agriculture par exemple. Et on parle peut-être pas aujourd'hui suffisamment autour de la question du climat, de la transition écologique, de ce potentiel d'invention de solutions qui est diffusé. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir mettre un coup de projecteur sur ces porteurs de projets aujourd'hui.
Et donc vous avez fait un appel à projet, vous avez reçu plusieurs centaines, 200, c'est ça, candidatures
voilà,
à peu près, de personnes qui portaient des solutions open source pour l'écologie en faveur de la planète, etc.
Voilà. On a reçu 200 candidatures, à peu près 190 et quelques à peu près, qui venaient des quatre coins de la planète. Il y avait à peu près 20% de Français à peu près de mémoire. Et l'idée, c'est que on est en train de terminer notre sélection donc de 12 projets. On en a déjà annoncé 7 aujourd'hui. Et l'idée, c'est que ces projets, donc ces équipes projets, viennent nous rejoindre pendant 5 semaines dans un dispositif qu'on appelle donc encore une fois le Innovation Camp, qui se passera dans un lieu qui est à 3/4 de Paris, qui s'appelle le Château de Millemont, qui est dans les Yvelines. Et l'idée, c'est qu'ils sont un peu en résidence, en pension complète, et on met à leur disposition le temps, l'espace, tout l'outillage et les outils. Donc le lieu sera équipé comme un Fab Lab, comme un Makerspace, avec les machines, les outils, les matériels, tout ce dont ils ont besoin pour travailler sereinement. Et on met aussi à leur disposition finalement de l'expertise. Donc on a des mentors, des spécialistes, des experts de design par exemple, ou d'ingénierie, ou d'électronique, ou de modèles économiques, ou de communication, qui vont venir pour quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, travailler avec ces porteurs de projet pour sublimer un petit peu leur projet.
Et ça va se passer à la fin de l'été, mi-août, début septembre, c'est ça?
Ça se passe du 15 août au 20 septembre, et ensuite on a, après le 20 septembre, l'objectif c'est de diffuser, de porter haut les messages, les projets, les idées de tous ces innovateurs, parce qu'il faut bien voir que le point de départ de notre réflexion, c'est voilà, c'est génial, toute cette créativité, tous ces projets, tous ces objets qui sont inventés, mais c'est pas forcément très connu ou même pas forcément très intelligible pour le grand public. Et ce qu'on veut en tout cas, c'est les rendre plus facilement diffusables et présentables pour une diffusion à grande échelle. Donc on va travailler avec eux sur leur prototype, et au-delà de ça, on va travailler avec eux sur la conception d'une exposition, d'un catalogue et de différents formats de diffusion multimédia, donc offline type exposition, qui aura lieu d'abord au château, puis à Paris, juste avant et pendant la COP21. On va produire un catalogue de ces solutions, et puis essayer d'organiser différents événements de diffusion auprès du grand public dans les Fab Labs et Makerspace.
L'as dit, sur les 12 projets sélectionnés, vous en avez déjà annoncé 7. Je vais les citer pour que les gens se fassent quand même une idée du type de projet qui vous intéresse. Donc il y a une turbine éolienne à $30 qui est faite par des Anglais. Il y a Aker, qui est un projet d'IKEA, c'est-à-dire de multi-solutions pour l'agriculture urbaine, qui vient des États-Unis. Il y a quelque chose qui s'appelle Biceps Cultivatus, qui vient de France et qui veut repenser la pièce de la cuisine de la cuisine dans la maison, pour notamment accroître l'autonomie, etc. Tu souris.
Voilà. Non, mais c'est parce que le nom est amusant. En fait, c'est un projet de ces 3 designers français qui avaient chacun travaillé sur leur projet de fin d'études sur différents éléments pour la cuisine, et qui en fait l'ont recombiné dans un meuble cuisine entier, hein, comme une cuisine mobile pas ou autre, mais finalement avec un système pour favoriser la culture de plantes aromatiques et de légumes avec une culture aquaponique, un garde-manger qui questionne le rôle du frigo, parce que finalement on met tous nos aliments au frigo en permanence, mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent se conserver tout simplement à frais, à l'ombre, sans avoir besoin de faire fonctionner un frigo. Et puis différents éléments de transformation manuelle pour faire des soupes, des potages ou d'autres choses. On a aussi un concentrateur solaire, hein, donc c'est du solaire mais pas du photovoltaïque. On utilise des miroirs pour chauffer un liquide et s'alimenter en chaleur, ou éventuellement la transformer en électricité.
Il y a une bouilloire bio aussi, Nautil.
Voilà, donc là l'idée c'est une bouilloire électrique à faible consommation qui reprend dans son design, dans sa conception, des codes du biomimétisme. Donc ce sont ces principes de design qui s'inspirent de la nature pour finalement fournir des produits, des solutions à faible consommation en ressources.
Un de mes préférés vient de Finlande, on les a presque tous cités, ça s'appelle Shower Loop, et l'idée c'est que l'eau qu'on utilise pour se doucher est lavée automatiquement, recyclée automatiquement, et donc on peut se doucher en circuit fermé, c'est-à-dire on utilise l'eau
si comme moi vous avez du mal à vous réveiller le matin et que vous culpabilisez toujours quand vos douches durent trop longtemps, et ben là vous avez un système, un filtre qui vous permet en temps réel de traiter et de pomper l'eau de manière à ne pas en fait gaspiller 50 litres d'eau tous les matins quand vous prenez votre douche.
Et l'idée c'est que tous ces projets, donc les 12 et certainement des dizaines et des dizaines d'autres que vous n'avez pas pu sélectionner ou qui ont été créés avant, sont applicables par chacun. On peut en général retrouver les plans, les refaire, etc. Et donc c'est assez peu coûteux.
Alors en fait on a posé la question au départ, est-ce que votre projet il est déjà open source, donc est-ce que vous avez déjà publié les plans et finalement chacun peut s'approprier, ou est-ce que vous avez inventé quelque chose et finalement vous êtes intéressé par la philosophie et vous avez envie à l'issue des 5 semaines de publier votre projet en open source. Donc l'idée c'est que tous les fichiers techniques, les fichiers 3D, les plans, la liste des matériaux, des composants, voire des fournisseurs par exemple, sont publiés pour que quelqu'un puisse le fabriquer lui-même, ou éventuellement monter une activité de commercialisation, de fabrication, de distribution.
Anne-Sophie, tu te reconnais dans ce genre d'événement, j'imagine?
Bah oui, enfin, moi, je suis l'économie collaborative depuis longtemps, et de fait, on a prévu aussi des synergies avec ce que fait POC21, et on va venir le présenter dans notre communauté, et c'est assez lié, et j'espère que pendant la COP, au-delà des expos qui seront peut-être dans d'autres lieux de Paris, on puisse aussi faire des choses ensemble.
Bonjour, Sidi Mokhtar Cheguer.
Bonjour.
Vous êtes président de l'ANEJ. L'ANEJ, c'est African Network of Environmental Journalists, c'est-à-dire le réseau africain de journalistes environnement. Et vous êtes également directeur de publication de l'Essor Magazine à Nouakchott en Mauritanie. Un mot peut-être déjà, Sidi, sur ce qui s'est dit jusqu'à maintenant.
Eh bien, écoutez, je suis agréablement surpris que des projets particulièrement attaché aux questions de l'information environnementale se prépare par rapport à la COP. Et c'est l'occasion de présenter aussi le nôtre, parce que nous, par rapport à la COP, nous avons aussi un projet. C'est un projet qui s'intitule « We, the Children of Africa ». Le « we » ici, c'est le « nous » en anglais, c'est-à-dire « nous, les enfants d'Afrique », un peu par allusion à la fameuse phrase de début de la Constitution américaine. Alors ce projet, c'est un projet qui consiste à amener des enfants africains, de quelques pays africains, qui feront devant les chefs d'État africains, devant un chef d'État africain qui représenterait l'Union africaine, un mot destiné aux décideurs qui seront présents au Bourget pendant la COP21. L'espoir est qu'à travers le cri de détresse des enfants d'Afrique, l'Afrique elle-même interpelle le monde sur les dangers imminents et presque irréversibles des changements climatiques. Et puis après, on va amener quelques journalistes africains en binôme avec des enfants d'Afrique à la COP21 pour que la couverture se fasse non pas de façon classique par un journaliste qui, à travers les travées de la conférence, dans les coulisses, couvre l'événement, mais suive un enfant d'Afrique et couvre pour le pays de cet enfant-là la COP21 à travers les yeux de cet enfant, à travers la promenade, à travers les questionnements de cet enfant dans les coulisses de la COP21.
J'allais vous demander, Sidi El Mokhtar, ce que vous pensez de ces projets qui mêlent journalisme et engagement, et finalement votre projet We Children of Africa est également un projet qui sort un petit peu du champ du journalisme.
Alors nous sommes à notre cinquième, sixième, septième, peut-être activité environnementale. Elles étaient toutes un peu classiques, c'est-à-dire les retrouvailles de journalistes, les journalistes qui interpellent les décideurs ou les journalistes qui interpellent la rue, etc. Mais on a pensé que il faut pouvoir véritablement peser sur la décision à Paris. Et on pense qu'un des moyens les plus pertinents serait que des enfants viennent interpeller le monde, parce que la finalité de tout ça, c'est la terre qu'on laisse, qu'on lègue à nos enfants. Ce n'est pas tellement facile de faire bouger la rue en Afrique, et quand vous la faites bouger, il n'est pas évident quelle est l'influence qu'il faut sur les décideurs. Nous sommes encore à la traîne en matière de démocratie, et la rue n'a pas beaucoup, beaucoup d'influence sur les décisions qui se prennent. Et particulièrement dans le domaine de l'environnement, c'est encore beaucoup plus compliqué, puisque tout le monde n'est pas au même niveau d'information sur les dangers, y compris d'ailleurs dans les milieux de la décision, y compris donc dans les milieux intellectuels et dans l'intelligentsia. Alors que le langage de l'enfant, lui, c'est un langage qui frappe tout de suite, qui est pertinent. Donc des enfants qui parleraient devant des chefs d'État, qui diraient voilà, nous, est-ce que dans 40 ans, nous allons encore pouvoir réaliser notre ambition de devenir ingénieur, médecin, pilote, etc. Est-ce que vous ne condamnez pas notre terre, la terre que vous nous laissez? C'est un peu, si vous voulez, sur le registre de l'émotivité que nous avons pensé faire cette activité-là, espérant qu'elle sera un peu le message de l'Afrique à la COP21. On n'a pas beaucoup d'espoir, malheureusement, que les choses se passent comme il faut à la COP21. On n'y croit pas trop, on espère, mais on n'y croit pas trop.
Vous parlez au futur avec les enfants, mais les difficultés climatiques, si on les sent moins dans des zones tempérées comme en France, on les sent énormément autour de vous, dans la zone sahélo-saharienne. Vous avez écrit ceci il y a quelque temps sur cette zone. Les sécheresses répétitives de 1970 et 1984 et la désertification ont décimé le cheptel d'une douzaine de pays, tous à vocation pastorale prédominante. L'inexorable avancée des dunes jusqu'à 5 km lent par endroit a enseveli des villages entiers, dont des cités historiques, et menacent des centaines d'habitations. Et ne parlons pas des conséquences directes. Flux migratoires ininterrompus, précarité et accroissement anarchique des périphéries des villes, pauvreté, décadence sociale, troubles politiques.
Oui, Je crois que je l'ai écrit il y a déjà un an et demi ou deux ans. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, les catastrophes des migrants, les migrants qui échouent sur les plages européennes. On voit un peu ce qui se passe, les cataclysmes, les catastrophes climatiques tous les jours. Il se passe pas une semaine où il n'y a pas sur nos écrans un cataclysme, une catastrophe climatique quelque part dans le monde. Et ceci devient de plus en plus fréquent. D'ailleurs, je pense que c'est probablement ce qui a fait prendre conscience ces dernières années de la catastrophe climatique. Il y a 10 ans, je me souviens encore, il n'y avait pas un journal africain qui écrivait sur l'environnement. Il n'y a quasiment aujourd'hui pas un journal africain qui n'a pas une rubrique sur l'environnement. Ça s'est passé relativement vite et je pense que l'information, la sensibilisation, les télés, les radios ont joué un rôle déterminant.
David Solomé.
Oui, j'aime bien ce qui vient d'être dit à l'instant. Je pense que effectivement, il va y avoir un focus très très fort sur Paris, sur une capitale européenne, l'une des plus riches de la planète. Dans quelques mois, le changement climatique se produit d'abord ailleurs. Alors, on n'y échappera pas dans les décennies qui viennent, mais ça se produit d'abord ailleurs. Et je pense que c'est aussi ça le rôle des médias, c'est de mettre les photographes, de mettre les lumières, de mettre les focus sur ce sud qui prend le premier, qui subit le premier, et effectivement ces vagues de migrants qui arrivent d'Afrique du Nord, mais pas seulement, ces sécheresses en Inde, ces sécheresses en Californie, tout cela, c'est de ça dont on va parler en décembre, et c'est ça qu'on doit réussir, nous les médias, qu'ils soient classiques ou avant-gardistes, peu importe, mais à réussir à traduire dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, les enjeux de cette conférence climatique.
Merci à tous.
Merci Ziad.
On trouvera plus d'informations, des liens complémentaires sur l'Atelier des médias. Bientôt.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va ?
Très très bien. Et toi ?
Ça va très bien, merci beaucoup. On reste avec toi dans le sujet du jour, c'est-à-dire l'écologie, le développement durable. Tu souhaites nous expliquer la manière dont la ville intelligente peut contribuer aux économies d'énergie.
En effet, ce qui me frappe, c'est qu'après des années, voire des décennies, passer à se demander comment diversifier la production d'énergie, on commence à se demander sérieusement comment économiser celle qu'on produit. Il ne s'agit pas seulement de demander aux utilisateurs de faire plus attention. De multiples campagnes existent dans ce sens. Elles sont utiles, mais elles ne suffisent pas. L'idée centrale est d'utiliser les technologies de l'information pour consommer plus intelligemment.
Et comment est-ce qu'on peut faire ça ?
De plusieurs façons, comme toujours. La première approche très général consiste à mettre en place des smart grids, c'est-à-dire des réseaux intelligents de distribution d'électricité. Ils reposent sur 3 principes essentiels. D'abord, on rapproche la production de la consommation au lieu de la centraliser et de la faire circuler sur de grandes distances. Ensuite, on intègre de multiples sources de production, dont les consommateurs, pour qu'ils puissent partager leur production avec le réseau. Enfin, on utilise les logiciels et les technologies de l'information pour mieux gérer l'ensemble. Wikipédia en français nous explique que, et je cite, « l'apport des technologies informatiques devrait permettre d'économiser l'énergie en lissant les pointes de consommation et en diminuant les capacités de production en pointe qui sont les plus coûteuses et de sécuriser le réseau pour en réduire le coût ». L'Italie nous fournit un autre exemple de ce qui peut être fait. Enel, une très grosse multinationale de l'énergie, et l'opérateur Telecom Italia ont passé un accord pour tirer parti des synergies possibles entre leurs deux réseaux, qui pourtant sont bien différents.
Est-ce que tu as d'autres exemples concrets ?
Quelques-uns, bien entendu. Au niveau des municipalités, la ville de Nice participe à CityOpt, une expérience européenne participative. Parmi les éléments, on note le recours à un réseau social qui permettra à l'EDF de suggérer aux usagers des réductions de consommation pendant les périodes de pointe. On voit aussi l'émergence de nouvelles technologies, comme celle proposée par ces deux start-up américaines, Radiator Labs aide à réduire l'utilisation inefficiente du chauffage. La compagnie affirme pouvoir aider à réduire la consommation énergétique de 40% dans le nord des États-Unis et au Canada. De façon complètement différente, et c'est une grande partie de ce qui je trouve fascinant, Block Power aide les bâtiments de quartiers défavorisés à se réunir pour mettre en place un programme commun de réfection permettant de faire des économies d'énergie. Cela devrait permettre aux écoles, aux églises et aux logements sociaux d'obtenir des crédits auxquels séparément ils n'auraient sans doute pas accès. C'est une nouvelle page qui s'ouvre et nous y reviendrons si tu veux bien.
Bien sûr, avec plaisir Francis, merci. On retrouvera cette chronique sur ton blog de l'Atelier des médias. On peut aussi la lire sur ton site francispisani.net. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Ziad.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 384 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beu, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Merci aux équipes de France Bleu pour avoir permis la connexion avec la ville de Nantes. Pour nous réentendre, c'est sur rfi.fr, soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir ou de vous déplacer dans la ville ou la campagne, vous faites bien, partagez cette pratique autour de vous, le podcast, et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio comme iTunes par exemple. Salut à toutes et à tous.
Allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens.
Regarde tout ce qu'on peut faire.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.